Forum Opéra. Selim Mazari. Le cheveu en quatre.
Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro du Cheveux en 4. Le Cheveux en 4, qui je vous le rappelle, est une tribune qui nous permet de comparer les versions qu'on aime et voir laquelle on adore plus. Et alors aujourd'hui, je suis entouré merveilleusement par Camille Derec, comme pour le premier numéro.
Ah, vous commencez pas par les femmes, vous. Ça c'est vraiment...
Mais non, je voulais
sagouin.
Je voulais parler de Marie Pervost et je voulais lui...
Ah oui, donc,
je voulais dire évidemment par Camille Derec, qui était avec nous au premier numéro. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie Pervost, soprano de son métier.
Et de son état.
Et de son état, pardon.
Les deux, en général.
Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. Alors aujourd'hui, on va consacrer cette émission à un air qui est pour ta tessiture.
Absolument.
Puisqu'il s'agit du troisième air de Cléopâtre dans Giulio Cesare in Egitto de George Friedrich Handel. Pardon.
Comment tu dis ?
George Handel.
De Handel.
Et alors, la première question avant qu'on l'entende quand même, c'est est-ce que tu l'as chanté cet air ?
Alors, pas sur un plateau, mais par contre, évidemment, je l'ai travaillé. C'est un air de répertoire qui fait plaisir, parce qu'il a une certaine virtuosité, c'est un vrai challenge. J'ai hâte d'entendre les versions que tu vas nous proposer.
Est-ce que c'est un air que tu trouves particulièrement difficile ?
Sur certains aspects. Après, c'est toujours comme dans tout dans la musique. On a des atouts dans une partie de la voix, on a des difficultés dans d'autres aspects. Donc, chaque interprète a des facilités ou non pour certaines difficultés. Ici, c'est une virtuosité, une rapidité. Donc, c'est ces chanteurs-là qui vont trouver ça facile.
Alors, je préviens les auditeurs les plus cultivés que nous n'aurons pas la version de Francesca Cuzzoni, qui était la créatrice.
C'est regrettable, ça.
Je suis désolé.
L'enregistrement a été effacé par la BBC.
C'est un...
Lors de l'incendie de Londres en 1712.
Quel
je vois
drame.
Que Camille s'y connaît parfaitement. Créé en 1724, donc nous sommes au troisième acte. Camille, peut-être tu peux nous rappeler ce qui se passe dans cette ère. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Cléopâtre ?
Non, mais en gros, je peux raconter Jules César. Pas en large, mais dire ce qui se passe. C'est un opéra de Handel, tu l'as dit. Jules César arrive en Égypte, donc on sait qu'il est à la recherche du terrible Pompée. Là, il tombe sur le pharaon Ptolémée qui lui dit j'ai attrapé Pompée et je lui ai coupé la tête, voici la tête de Pompée. Ce qui ne plaît pas du tout à Jules César. Il a un petit côté courroucé. Et puis là, il tombe sur la sœur de Ptolémée qui est la belle Cléopâtre. Et Cléopâtre, dans l'opéra, elle a des tas d'air, des airs à la fois langoureux, virtuose, puis langoureux, puis virtuose. C'est-à-dire, elle a énormément d'air, c'est le propre du seria. Et ça, c'est un des airs de grande virtuosité. Alors, je ne me souviens plus exactement ce qui lui passe par l'esprit quand elle chante Da Tempesta, mais en gros, à mon avis, comme elle chante Da Tempesta, il doit y avoir une sorte d'orage intérieur en elle, et elle doit vouloir exprimer à la fois sa fureur amoureuse, fureur de vivre, et aussi son grand chagrin, parce qu'elle est dans un enjeu de pouvoir avec son frère, quand même, Ptolémée. C'est pas facile à gérer les conflits intrafamiliaux. Et puis, elle est tombée amoureuse de ce beau Romain qui porte des sandalettes tressées et qui est Jules César, sandalettes jupettes aussi. Il faut dire aujourd'hui, ça serait dur de draguer dans cette tenue-là, mais Jules César il y arrivait. Et voilà. Et donc c'est le moment aussi. Il faut voir parce que Marie disait qu'elle l'avait pas chanté sur un plateau, mais c'est un air que tout le monde a chanté dans sa douche.
Absolument.
Da Tempesta. Moi le premier. Vous aussi.
Je confirme. Je le chante fréquemment dans ma douche, mais je reprends tout de suite l'aria da capo variée.
Variée. Et alors il y a une version qui est probablement pas dans ta sélection, Céline, mais qu'il faut absolument voir sur YouTube, c'est une version avec une sorte de décoration authentique faite par Beverly Seals, où on voit Beverly Seals dans une décoration noir et blanc, on dirait ma sorcière bien-aimée, où elle est habillée en pharaon, mais improbable, avec une sorte de plumeau sur la tête qui sert à faire les poussières, et elle tourne autour d'un guéridon avec fureur, mais par contre, bon, ça n'a l'air de rien visuellement, mais vocalement, c'est hallucinant, et ça montre jusqu'où on peut aller en jouissance pyrotechnique dans cet air.
J'espère qu'on va pouvoir quand même découvrir des versions différentes et intéressantes et je vous propose tout de suite de rentrer au cœur de la tempête avec la version A.
Oh! Oh!
Da Tempeste il Legno Infranto de cet opéra de Handel qui est Giulio Cesare. C'était la première version.
Oui.
Camille, un avis, une opinion?
Ah oui, même les deux. Alors, cette version-là, il y a un timbre assez intrigant, avec à la fois une sorte de fêlure, je trouve, mais des couleurs ambrées qui sont intéressantes et intrigantes. C'est peut-être ma petite réserve, une sorte de langueur dans les vocalises, qui sont du coup prises un peu par le bas. Alors, on ne sait pas si c'est le drame ou si c'est un petit problème technique, mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, même si c'est pas non plus le feu d'artifice délirant auquel on peut... aspiré, auquel j'ai personnellement déjà assisté sur scène, avec cette chanteuse qui donne un tout petit peu, peut-être un peu plus de feu sur scène. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'au fond, on entend la basse continue qui bourdonne comme une petite banda. Alors, parfois, il y a un côté un peu marrant parce qu'on entend vraiment tout, 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 on a l'impression d'entendre une boîte de nuit chez les voisins. La reprise, ça fait quand même son petit effet. Dans la reprise, les vocalistes prennent un côté un peu motorique parfois, ce qui me semble... pas tout à fait idéal, mais on est dans la grande orthodoxie quand même avec une interprète qui parvient à trouver le juste milieu entre ce qui peut être impressionnant et puis ce qui reste de bon goût. Même si, à mon sens, et c'est, je crois, ma seule vraie réserve, on est vraiment face à une voix qui est un peu construite de manière pyramidale, donc il y a vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup d'harmoniques dans le grave, dans le bas médium, mais qui commence à perdre un peu de ses harmoniques et de ses couleurs dans le haut médium, même si on a entendu... un magnifique aigu dans les vocalises à la fin. Voilà, un premier avis.
Merci Camille. Marie, est-ce que tu rejoins l'avis de Camille sur cette première version?
Oui et non. C'est-à-dire que ce qui me séduit particulièrement justement dans cette voix, c'est cette sensualité permanente pendant les vocalises, ce qui est difficile à garder. C'est vrai qu'avec les vocalises, la rapidité, on a tendance à être dans l'efficace et en fait, elle arrive à garder cette sensualité inhérente au personnage. C'est essentiel, c'est Cléopâtre et pas désirable, je sais pas qui est désirable, et ça je dois dire que pour moi c'est un vrai plus dans cette interprétation et ça me touche tout particulièrement. Effectivement, j'ai beaucoup aimé les basses riches et le côté très rebondissant de la basse continue qui donne justement quelque chose d'assez dansant dans cet air et pas juste pyrotechnique. Et il me semble, si mes souvenirs sont exacts, que j'ai effectivement j'ai assisté à cette représentation, la représentation de Jules César où cette chanteuse chantait. Il me semble que c'était avec une mise en scène particulièrement impressionnante et difficile, avec une chorégraphie extrêmement dure, avec du monde qui danse derrière et qui sont des danseurs professionnels. Et j'ai une empathie absolue, en fait, pour me retrouver parfois dans ces circonstances un petit peu difficiles. Et je trouve que dans ce contexte, effectivement, pour moi, c'est une version qui est spectaculaire parce que c'est à la fois extrêmement riche, vraiment très bien ornée quand même. La reprise est vraiment... d'une densité enfin, j'ai hâte d'entendre. Alors, je connais pas 50 versions, donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que c'est qu'une version plus ornée encore, mais pour moi...
Mais par exemple, il y a la version de Beverly Hills qui est pas dans notre sélection.
Oui, mais je ne la connais pas.
Là, vraiment, on a l'impression que ouais, c'est fou, quoi.
Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Je cours à la maison écouter ça.
On peut arrêter l'enregistrement une minute.
C'est son tout immédiatement. Mais voilà, et non, je trouve que j'aime beaucoup cette version, justement, voilà, moi, c'est sensualité qui ça m'a sauté aux oreilles immédiatement, et ça me séduit beaucoup.
Oui, je pense que c'est une version qu'on connaît tous, évidemment.
Faut pas dire ça, parce que si on l'a pas reconnue, on se sent bête.
Bien évidemment, mais je voulais dire nous trois, pardon.
Ah
je
oui,
voulais dire,
en même temps, nous deux, on a préparé l'émission ensemble, donc on n'a pas de mérite.
Surprise.
Et Marie, c'est son oreille absolue.
Bravo, oui, non, bravo
et
Marie.
Elle connaît toutes ses rivales par cœur, pour mieux les éliminer avec du poison.
Pour mieux les aduler, oui.
Et cette version, ce que je trouvais intéressant... en la mettant dans cette sélection, c'est aussi pouvoir l'entendre parce que visuellement il se passe tellement de
tout
choses intéressantes.
Absolument.
Que je crois que je n'ai en fait jamais eu l'occasion de l'entendre avant la préparation de cette émission.
Et ça vaut la peine. Ça vaut la
effectivement,
peine.
Ça Absolument. Vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors tout de suite la version B de cette air de Giulio Cesare.
Desirar, ah, 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 ah.
C'est la version B. Marie, quelle maîtrise, quel contrôle!
Mais comment tu essaies d'influencer les invités?
Complètement, absolument. Ah ouais. Je me sens achetée.
Oui, achetée.
Non, ce qui me frappe immédiatement dans cette version, c'est cette. En fait, on entend que c'est une voix immense, on entend que c'est une voix d'un lyrisme fou. J'imagine que dans Vador, au Pupil ou les d'autres airs lents du rôle, elle doit être absolument divine parce que vraiment, on sent un velours dans le médium qui fait rêver la nuit. Et c'est vrai que dans cet air, pour elle, ça devait être un sacré challenge. Du coup, je ne peux qu'être admirative de cette capacité de rassembler la voix pour garder un tempo qui est le même que celui de la version précédente, où la voix est construite complètement différemment. Finalement, ça montre exactement ce dont je parlais au tout début, c'est-à-dire, voilà, selon les instruments, on a des difficultés et des facilités. Là, clairement, on est dans le point faible de cette voix, c'est-à-dire c'est compliqué, cette virtuosité qui referme l'instrument et qui fait que, du coup, les aigus des cadences sont fragiles, parce que c'est pas là où cette voix a le 100% de son... C'est pas là où elle est le meilleur. Mais par contre, elle en fait
c'est
quand
même... C'est pas son corps de business.
Voilà, c'est pas là où... Ça claque. Mais par contre, quand même, c'est spectaculaire. Et j'imagine que ça, à l'échelle du spectacle entier, c'est extraordinaire. C'est une performance fabuleuse d'être capable d'ouvrir son instrument dans un lyrisme pareil et puis tout d'un coup, de se concentrer et de réussir à faire ce qu'elle fait. Donc, c'est quand même magnifique. Moi, je suis très impressionnée.
Camille, est-ce que tu partages ou est-ce que tu retrouves un timbre intrigant comme chez...
Non, mais je suis entièrement d'accord avec Marie. C'est peut-être une chanteuse dont l'interprétation est plus empêtrée de maniérisme et de chichi. Au début, on a vraiment l'impression qu'elle essaie de camper un personnage qui est un camp, justement, une séductrice. Alors, on l'entend par certains effets dramatiques et vocaux qui sont peut-être un tout petit peu téléphonés. Et puis aussi, ce qui est particulier par rapport à la version précédente, la voix est énorme, mais le grave est un tout petit peu moins naturel. Donc, sa manière de passer dans le grave me semble un peu téléphoné aussi, me semble un peu construite avec un grave moins substantiel, paradoxalement que ça l'impétrante de la version A qui elle devait avoir une voix plus petite mais avec plus de richesse harmonique et de couleur dans le grave. Les vocalises sont légèrement savonneuses. Alors je dis pas savonnées parce que c'est vrai que on peut dire que les notes sont là, qu'effectivement elle les chante, mais on sent effectivement, comme disait Marie, que c'est pas tout à fait son registre d'expression favori. Ceci dit, j'ai eu tendance à m'y habituer très vite, et à la reprise j'ai pris beaucoup plus de plaisir parce que déjà je m'étais fait à la voix, et je trouve quand même que c'est une proposition assez exquise, avec dans la reprise ces variations dans l'aigu, on a l'impression que l'aigu est retrouvé et tout à fait intact, avec des vocalistes qui sont aussi un peu plus libres
et très inattendus.
Exactement. Une très belle gestion de la respiration aussi, je trouvais, de sa part. On entend à certains moments, on entend ses respirations, on voit où elle tombe, et donc on se dit, elle est assez intelligente. Mais c'est vrai que l'écriture de la reprise est moins orthodoxe que l'écriture de la version A. On entend que derrière la version A, il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé sur le style. Ici, c'est plus une version de Diva. Mais je trouve que pour l'instant, les deux propositions sont tout à fait dignes d'intérêt, enfin même plus que ça.
Oui, je te rejoins sur l'idée que la deuxième version paraît plus maîtrisée. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a impressionné. Je trouve qu'on entend quand même un moteur de Rolls-Royce quand même dans cette version.
Ouais, on passe une bonne soirée avec elle, en tout cas si elle chante Cléopâtre sur scène.
Oui. Alors que la version A, je trouvais moi parfois plus de limites en fait. Mais en même temps, j'étais d'autant plus impressionné. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de quelqu'un qui jette ses tripes sur scène dans la version A. Tandis que la version B, je lui aurais reproché justement presque une maîtrise tel de son instrument que l'air d'une tempête.
Je ne suis pas entièrement d'accord. Pour moi, la version A, c'est vraiment une version qui parvient à maîtriser tous les paramètres et qui a peut-être un matériau un tout petit peu plus intéressant pour ce rôle-là, notamment au niveau de la substance de la voix dans le grave et dans le médium. Et la version B, c'est une version qui est un peu moins idéale par rapport au répertoire, mais avec une voix impressionnante et qui arrive à se plier aux normes du répertoire. En plus, ce qui me frustre, c'est que je n'ai pas reconnu la version B. Et donc, si ça se trouve, on est en train de parler de Waltraud Meyer.
C'est vraiment un exercice très, très pervers.
Waltraud, si tu nous écoutes.
Est-ce que vous voulez qu'on rassure Waltraud tout de suite ?
C'est pas Waltraud.
On choisisse l'une des deux versions.
J'aurais du mal à choisir à ce stade-ci.
Ah non, ouais, c'est trop deux extrêmes.
Bah, moi, je choisirais la A parce que je l'ai préférée, mais vraiment d'un micro-poil. Donc, c'est vrai que s'il faut faire un choix, on peut le faire.
Mais vraiment, Marie,
bon, alors ce qu'on fait, c'est qu'on écoute tout de suite la version C et on choisira une version pour continuer à l'issue de cette écoute.
Oh.
Marie nous confessait qu'entendre trois versions comme ça successives, ça lui donnait envie de le travailler, de le retravailler, de le chanter.
Moi aussi.
Toi aussi, ça donne
envie de le chanter.
Aussi,
tripping, hein,
d'ailleurs, sans le Covid, j'aurais fait mes débuts à Garnier dans ce rôle, hélas.
Encore une des victimes du Covid.
Exactement. Bon.
Alors cette version C, qu'est-ce qu'elle t'inspire, Camille?
Elle m'inspire une réflexion. C'est pas facile de passer après les deux premières. Si on l'avait entendue en premier lieu, on aurait peut-être entendu moins facilement les défauts. Je crois que dans la vie, soit on a la voix pour chanter un rôle, soit on l'a pas, soit il y a encore une troisième possibilité, on trouve les moyens. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc on entend que c'est une chanteuse qui est très intelligente et qui va, avec les moyens qu'elle a, essayer de trouver des solutions pour aborder cette partition et qu'il faut dire est sans pitié. Voilà, par rapport aux deux versions qui précèdent, il y a une vraie carence en couleurs. Je crois que c'est vraiment ça qui est cruel. C'est une voix totalement perlée. Alors tant dans sa construction, on a vraiment l'impression d'une petite bulle délicate et précieuse, mais aussi de la couleur un peu monotone et grise d'une perle. Je me demande aussi si c'est un enregistrement qui a été pris au sommet total de la carrière de cette chanteuse ou au contraire, si c'était déjà un tout petit peu dans son déclin. Il y a des couleurs automnales, mais qui ne me gênent pas tout à fait. Il faut dire qu'elle est aussi aidée ou pas aidée par une prise de son qui la place au milieu d'un écrin. Donc on entend vraiment la chanteuse et derrière l'orchestre qui, dans son genre, est assez vrombissant. Voilà, avec aussi un continuo très affirmatif et très gling-gling comme ça. On sent qu'on avance. Mais la prise de son a aussi... pour défaut de souligner tous les défauts de cette voix. Par exemple, on l'entend, le grave est vraiment appuyé, pas substantiel. On entend vraiment que la voix perd vraiment de sa substance dans le grave et qu'il est tout à fait grossi. Donc on entend les limites de cet instrument. Mais moi, je retiens l'ingéniosité de cette chanteuse parce que là, on est dans un exercice très particulier qui fait de l'écoute comparative. Donc on compare. Mais si on l'avait entendu sur scène, on se serait dit ah, « bravo ». Elle s'en est admirablement sortie. Et je crois même que cette chanteuse, c'était un peu sa marque de fabrique. Je l'avais entendue à la télévision chanter Liu dans Tourando pour la réouverture du Liceo, parce qu'elle était de là et que donc on s'est dit qu'il fallait une star locale. Et elle n'avait pas du tout la voix du rôle, mais elle s'en était sortie. Voilà. Moi, je retiens sa pétillance quand même, parce que c'est vraiment une femme qui est une artiste et qui parvient quand même à faire quelque chose de cet air.
Ouais, c'est une fragilité qui est assez touchante, je trouve. Marie, tu rejoins l'avis de Camille sur...
Oui, tout à fait. C'est vraiment une voix champagne. C'est ravissant. On sent qu'elle se balade. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Le bon côté de cette version, c'est qu'effectivement, on sent que pour elle, mais alors, il n'y a pas de difficulté. Enfin, je veux dire, elle le traverse de A à Z. Et ça, c'est vrai que pour l'auditeur, il y a aussi une forme de plaisir aussi de sentir voilà, qu'il n'y a aucune difficulté et que vraiment, pour elle, le tempo est déjà plus allant que les deux autres versions. Je pense qu'il pourrait même, après quelques... Enfin, il pourrait vraiment encore être plus, mais ça serait presque dommage à mes yeux, parce que c'est vrai que la voix donc est belle et claire, mais voilà, pour moi, là, on ne sait pas du tout ce que j'imagine pour ce rôle, effectivement, quand on connaît les autres airs, quand on connaît l'effectif instrumental de l'ouvrage, on sait qu'en fait, à mes oreilles et à mes yeux, après, je ne suis pas une référence en la question, mais en la matière, mais c'est vrai que pour moi, c'est un rôle de sensualité avec des voix bien plus charnues, et pour moi, justement, cet air est central dans l'ouvrage complet, parce que justement, c'est une voix très lyrique qui, d'un coup, doit faire une pièce virtuose. Et finalement, pour moi, la B correspondait plus, ou la A correspondait plus à ce qu'on attend de cet instant qui n'est pas facile d'attempeste. Ça doit être un moment où tout le monde serre les fesses parce qu'on va vivre une vraie 7 minutes de challenge. Et là, là, c'est vrai qu'on traverse ça en se disant bravo, extraordinaire, facilité. Mais au sein de l'ouvrage, c'est pas ça qu'on veut. On veut le challenge.
Alors, cette proposition donc, de cette version C vous a moins convaincu, je pense, que les deux premières. Je vous propose qu'on dévoile
absolument
le nom. Donc, il s'agissait de Maria Bayo chez Naïve, accompagnée par Skip Simplay. C'était une version dont on n'entend plus trop parler, en fait, depuis quelques années.
Mais Maria Bayo, elle a vraiment eu son heure de gloire. Je crois que c'est au début des années 90. Elle a fait une production à La Monnaie qui a fait le tour du monde et qui était la Callisto
bien sûr,
la Callisto de Cavalli. René Jacobs dirigeait. C'était une mise en scène inouï de Wernicke. C'était sorti en DVD, en disque chez Harmonia Mundi. Et à partir de ce moment-là, elle est vraiment devenue la soprano baroque avec, il faut le dire, ce timbre fruité magnifique. En plus, scéniquement, elle était jolie comme
un
cœur.
Elle est d'une beauté, à couper le souffle.
À couper le souffle, avec un petit côté Maria João Pires dans ce gabarit plutôt petit et extrêmement délicat et charmant. Elle était très mutine en plus. Mais voilà.
Est-ce qu'on lève le voile derrière l'une des deux versions ou on continue?
Gardons le
suspense. Moi, je les garderai toutes les deux. Effectivement.
Oui. Gardons le suspense alors.
C'est important, le mystère.
Je vous propose, on va changer de style, je vous propose d'écouter la version D. Ah ben non.
Oh.
c'était la version D de cette ère de Giulio Cesare. Marie, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ah, mais comment ne pas reconnaître une de nos plus grandes chanteuses françaises ? Évidemment, ça nous saute aux oreilles et c'est vrai que c'est un plaisir de la retrouver. Il s'avère que j'étais à la générale de cette représentation de Jules César à Garnier et il y a eu une petite anecdote rigolote. Bon, c'est un petit peu... c'est léger. C'est-à-dire que l'entrée du troisième acte, non, ou dernier, je ne sais plus, quatrième, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, sur la fin de l'ouvrage, donc on était déjà chargé d'émotions, l'entrée de Cléopâtre se faisait dans le tapis. C'est-à-dire que la femme en question, mystérieuse, était dans le tapis roulé et le tapis se déroulait, elle déroulait son corps dans le tapis et donc elle devait arriver en ras de scène pile au moment de commencer à chanter. Donc c'était spectaculaire comme effet, mais bon, c'était la générale et comme dans toutes les générales, des choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et effectivement, au moment où elle est arrivée en bord de scène, au lieu d'être face, elle était dos et la robe avait roulé et les fesses étaient à l'air.
Non.
Et je dois dire que beaucoup d'entre nous avons eu beaucoup de mal à ne pas rire parce que c'était quand même spectaculairement burlesque. Alors Dieu merci, la mise en scène était très bien faite et donc la chanteuse en question avait une fausse poitrine et des fausses fesses pour faire encore un corps encore plus généreux et encore plus sensuel.
Vous n'avez pas vu les vraies fesses
nous
de
n'avons
cette
pas
chanteuse
vu.
Mythique.
Et c'est un grand regret parce que je suis sûre qu'elles sont aussi formidables que ces fausses fesses.
Voire plus.
Mais on a bien ri. Oui. Mais par ailleurs, concernant cette version,
je me suis dit, elle est habile, Marie, elle a trouvé un moyen de ne pas parler de la musique.
Alors, non, mais évidemment, c'est, la diction est divine, on peut prendre en dictée, ça c'est vraiment extraordinaire. Et ce que j'aime énormément, c'est l'ornementation du B que je trouve d'un raffinement total, que je trouve être un sur-mesure en fait. C'est pas attendu et c'est vraiment écrit pour sa voix à elle. Ça remet, c'est comme si tout d'un coup on réécrivait l'air pour elle. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait la force d'un grand da capo. C'est quand on n'entend plus des choses attendues, mais quand tout d'un coup, la chanteuse se révèle parce que dans le B, elle ne met que ce qu'elle sait faire de mieux. Ça, j'aime beaucoup dans cette version.
Camille.
Oui, Célim. Je vais être un peu moins dithyrambique que Marie, simplement parce que je crois qu'il faut émettre des réserves qui sont... pratiquement des réserves de forme parce que c'est pas un rôle qui est fait pour elle et qu'il a probablement jamais été, c'est pas son territoire d'expression préféré, c'est pas le répertoire vers lequel sa voix et ses moyens tendent naturellement, mais ce que je vais commencer par le positif, ce que j'adore chez cette chanteuse, c'est son élan. Il y a vraiment chez elle quelque chose, une envie d'y aller, une énergie, une envie d'en découdre, qui est vraiment la marque des grandes. Et on l'entend dès le début, où on se dit, mais c'est vrai que le timbre est pas au mieux de sa forme. En tout cas, par rapport à l'écriture, c'est pas ce qui montre les plus grandes richesses de la voix. On la sait capable de notes stratosphériques, de variations comme ça dans cet extrême aigu où sa voix prend des allures tout à fait cristalline. Ici, on est dans quelque chose d'un tout petit peu plus prosaïque. Mais comme dit Marie, quand vient le rôle de la reprise, tout d'un coup, les réserves ont tendance à s'effacer et on s'inscrit un peu comme elle dans cette pure énergie, dans cette pure joie de l'énergie. Donc, s'il faut quelque part juger de l'adéquation d'une chanteuse avec un rôle, je vais sans doute pas la conserver très longtemps dans mon cœur, mais il faut saluer aussi les efforts de l'artiste et de la technicienne et de la musicienne, parce qu'effectivement, comme dit Marie, du point de vue de la diction, du point de vue du feu qu'elle insuffle, c'est très impressionnant.
Oui, je te rejoins en tout point sur ton avis. J'ajoute quand même qu'il y a dans ces variations, dans ces vocalises, il y a toujours ce petit moment de grâce, 3-4 notes, juste un petit moment où on se rend compte de ce que c'était que l'instrument, ce qu'est l'instrument là évidemment, et ce qu'est la musicienne qu'elle est.
Mais alors, si tu permets, à ce sujet, elle avait chanté à la Scala au début des années 2000 le rôle de la Sonnambula, et on sait à quel point aller en découdre avec les Italiens sur leur terrain, c'est pas une mince affaire. Et tout le monde attendait cette chanteuse qu'on va bientôt dévoiler. Je crois que les auditeurs de Forum Opéra savent de qui on parle, mais tout le monde attendait cette chanteuse dans Anon Junge, à la fin, avec les aigus, avec les vocalises. Et là où elle était le plus émouvant, on aurait pu entendre une mouche voler, c'était dans le Anon Crede Amirati, où là, vraiment, c'était un moment d'éternité. Et moi, quand je l'entends chanter, je revis toujours ces moments-là. On entend qu'ils sont présents dans la voix, mais ça, c'est peut-être pas son rôle à elle.
Ça, c'est extraordinaire chez les grands chanteurs et les grandes chanteuses. Ouais. C'est quand on se rend compte qu'on écoute finalement plus que le souvenir d'une voix qu'on a tant aimée, plutôt que la voix en elle-même au moment présent.
Mais on l'aime encore bien. Hein.
Et on l'aime encore. Moi je l'écoute encore.
Tous les jours.
Elle donne des leçons extraordinaires de beauté. Évidemment, il s'agissait donc de la version de Nathalie Dessay. vous l'avez tous reconnu pour son album solo, chez Erato.
C'est Emmanuel Haïm qui dirige.
C'est Emmanuel Haïm qui
dirige. Le concert d'Astrée. Ouais.
Exactement, c'est une version... ça reste toujours c'est la patte des grands, même, comme tu dis Camille, lorsque ce n'est pas forcément le rôle bâti pour sa voix, on est quand même très admiratif de cette capacité à avoir brassé tous les répertoires.
Absolument. Enfin, sauf Loulou.
Sauf Loulou, effectivement.
Ouais, elle devait chanter Loulou, elle aurait été une formidable Loulou, et puis elle a pas fait.
Elle a annulé pour des raisons...
On ne sait pas pourquoi, des raisons qui la regardent, mais c'est vrai qu'elle aurait été incroyable dans Loulou, elle aurait été aussi dans le répertoire contemporain, on imagine les merveilles qu'elle aurait pu faire. Quand on voit la destinée de Barbara Hannigan aujourd'hui, on imagine Nathalie Dessay s'inscrivant dans ses mêmes pas, ça aurait pu être formidable aussi. Enfin bon, il y a des rencontres qui se font, il y a des rencontres qui ne se font pas.
Ouais, je garde un souvenir, moi c'est son Candide que je trouve à tomber de beauté, enfin peu importe. Ouais. On va écouter la dernière
version. Elle chantait Cunégonde, pas Candide.
Oui, non, mais
c'est blague d'initié, là.
Pardon. Oh là là. Non, on est sur forum opéra, c'est
bien
normal.
Bien sûr, je vois ça.
Je voulais dire l'air Glitter and Big Gay, mais voilà. Mais bon, je me suis fait avoir.
Comme un bleu, c'est normal.
Comme un bleu. Bah, deux émissions quand même seulement.
Hein. Oui, c'est tout. Ouais.
Version E.
Oh,
Alors, changement d'avis pour Marie Perbos qui vient de me dire finalement, je ne veux pas le chanter.
Bah non, mais c'est extraordinaire. Non, mais quand on entend des versions comme ça, ça te coupe le sifflis. Moi, je vais faire autre chose. Hein. Non, c'est magnifique. Pour moi, c'est un équilibre vraiment sublime entre la richesse de la voix et en même temps la légèreté. Elle prend, elle donne, elle enlève. Nous, on est là, on bave, on n'arrive pas, on subit, on est complètement à ses pieds. Quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'adore. C'est l'audace, c'est la séduction. C'est la séduction faite voix. Pour moi, c'est le rôle. C'est exactement ça. Enfin, moi je veux pas passer après ça, c'est clair.
Camille, j'ai l'impression que tu vas quand même continuer à vouloir le chanter.
Parce que oui, non, sens... bien sûr, parce que les contrats sont signés et puis il faut. Je veux pas décevoir le maître, tu vois. C'est normal.
Je comprends.
Et c'est le public.
Et surtout. Le public, oui, absolument. Non. Alors, moi, je comprends tout à fait ce que dit Marie. Je comprends d'autant mieux que j'adore cette chanteuse. J'ai entendu un nombre infini de fois sur scène. On connaît ses défauts par cœur et donc j'ai développé un argumentaire pour contrer les gens qui pointent ses défauts du doigt, savoir qu'elle fait parfois elle a des guerchouinismes dans la voix avec des portamenti qui peuvent paraître suspects, surtout dans Handel. Alors ça fait un peu ici Giulio Cesare dans le Connecticut, mais quand même, enfin voilà, c'est bon. Alors je pense que c'est pas un enregistrement qu'elle a fait non plus au sommet de sa carrière. On entend déjà que la voix se décharne un tout petit peu. Un tout petit peu, oui, mais quand on a connu cette chanteuse dans sa grande époque, c'est-à-dire dans les années 90, dans les années 2000, là vraiment, ça commence, les moyens commencent un tout petit peu à fondre. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste quelque chose d'assez extraordinaire. Puis on entend, voilà, on entend une diva. En l'entendant, on sent quasiment des bouffées de parfum de grandes divas rentrer dans nos narines. On voit les plis de sa robe de tissu précieux bouger sur scène. Il y a tout cet imaginaire-là qui colle extrêmement bien à Cléopâtre et à cet air de grande diva. Je pense néanmoins que c'est pas non plus un rôle pour elle et que les deux premières chanteuses qu'on a entendues étaient beaucoup plus dans l'orthodoxie. Mais j'entends quand même beaucoup de limites, surtout dans la première partie. Après, comme d'habitude, en fait, une fois qu'on est dans la reprise, on est dans la jouissance des moyens, on n'est plus dans la réflexion sur la ligne, etc. On est juste dans le petit plus, et son petit plus à elle, bah, il est extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se détendre et à dire waouh, 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 mais c'est pas pour elle que je voterai. Si elle se présente à la primaire des Républicains dans le Connecticut, dans ce cas-là, je voterai pour elle.
Mais je crois que ce n'est pas prévu.
Elle pourrait finir présidente des États-Unis.
Ah, je vote.
Moi, je crois qu'elle pourrait finir un jour présidente des États-Unis.
Elle en serait capable, en tout cas.
Oh, ça, clairement, oui.
Alors, pour le mid-term, l'air lui irait peut-être moins. Mais c'est nous qui devons voter maintenant.
Oui, votons.
Ah là là, ça va être terrible, parce que alors, moi, je suis bon.
Je rappelle quand même. Il nous reste la A, la B et la E.
Oui, tout à fait. C'est très bien résumé de ta part.
Oui, j'ai un esprit de synthèse qui défie toute concurrence.
Mais ce qui pose problème à mes yeux là, c'est que la A est formidable s'il y a une mise en scène comme celle que je connais dans cette version. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que là, c'est spectaculaire de chanter comme ça, avec une telle mise en scène. Alors là, moi, je vends mon chapeau tout de suite. Par contre, si on fait juste de l'audio pur, moi, je préfère, j'allais dire le nom, la E.
Camille.
C'est dur à dire. La E, je l'écarterais d'emblée, parce que c'est pas ce que je... La proposition est intéressante, j'adore la chanteuse, j'y reconnais tout ce que j'aime. C'est comme quand le corps a envie d'un bon bain chaud et que, avant même d'être rentré dans le bain, on sait de quoi on a envie, c'est cette chaleur, l'enveloppement, etc. Mais pas dans ce rôle-là, moi j'accroche pas. Alors reste la A ou la C. Non, la A ou la B.
La A ou la B.
Où là j'aurais quand même voté plutôt pour la A, ce qui vraiment m'étonne parce que je l'ai reconnue et qu'en rentrant dans cette émission, je pensais que c'est elle qui allait être éliminée en premier lieu.
Moi aussi.
Parce que j'avais des a priori. Et parce que je l'ai déjà entendu quand même quelques fois, où elle n'était pas dans une forme olympique, ben voilà, c'est aussi ça l'honnêteté de cette émission. Je veux dire, je pensais pas qu'elle allait gagner, loin de là, je pensais même qu'elle allait perdre, et pour moi, c'est celle qui arrive en premier, c'est la A.
Alors, si je peux me partager moi mon opinion, moi, je trouve quand même que la B.
Ah non, aussi la B. Pour moi, la B, elle est en deuxième place, ouais. Juste après la A.
Absolument, tout moi, à fait d'accord.
Ce qui me manque dans la B, personnellement, c'est juste cette espèce de. Cette mise en danger musicale qu'a la A. La A, même si les moyens sont formidables, quand on la voit, on se rend compte qu'elle est au bout de ses possibilités quasiment. Et c'est impressionnant. Et la B, étant dans la réserve, me paraît, dans la maîtrise, dans le contrôle, me paraît plus limitée. Bon, on dévoile la E peut-être d'abord, on va dévoiler, faire dans le désordre.
On va dévoiler la E.
La E, c'est la version de René Fleming.
Oh.
Bravo. Voilà.
Extraordinaire, René
on
Fleming.
On adore René Fleming.
Mais moi, je suis fan. Moi, une note de René Fleming, j'ai un souvenir au Musikverein, Liederabend avec Philippe Jordan.
Non, et puis quel répertoire elle a tout fait, même du Dutilleux, elle a fait des créations contemporaines,
le temps
elle a fait du jazz, le temps l'horloge. Et puis ses mélodies, quand elle chante par exemple en voix blues, elle chante pas comme beaucoup de chanteurs d'opéra en disant ouais. Non, pas du tout. Elle a une vraie voix blues. C'est donc voilà, c'est une artiste qui en plus a une dimension intellectuelle qu'on a tendance à mettre au second plan. Mais c'est vraiment une femme qui est dans des conseils d'administration, qui se bat pour le droit des femmes, pour le droit des minorités. Ben, c'est quelqu'un d'extraordinaire, René Fleming, et c'est une artiste extraordinaire aussi.
Ouais, moi je l'ai eu la chance d'assister à une émission pour nos amis néerlandophones de Podium Wittmann.
Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Mais c'est une émission en live le samedi sur la télévision néerlandaise. Et
pourquoi tu regardes la télévision néerlandaise?
J'ai vécu
un signe de perversion.
Un petit peu là-bas. Non, j'y étais en vrai. Ça, j'étais en vrai. On m'avait placé au premier rang et d'ailleurs les blagues des intervenants, j'étais un peu obligé de rire alors que je ne les comprenais pas.
Mais non, forcément.
Et René Fleming
elle parlait hollandais.
Et non, elle évidemment parlait en anglais, mais elle était extraordinaire, elle était divine dans son dernier album justement. Deux chansons plus blues.
Il faut aussi inviter tout le monde à regarder son intervention à Sesame Street, où elle apprend aux enfants à compter en chantant l'air de Gilda, entourée de petits cochons et de petits moutons. Et à la fin, les petits moutons et les petits cochons lui arrachent sa robe et sa tiare. Et c'est très drôle. En plus, elle a beaucoup d'humour.
Alors, je vais dévoiler les autres versions avant d'aller me précipiter sur cette vidéo. Alors, la version B.
En deuxième place.
En deuxième place, la version B. C'est Joyce DiDonato.
Ah, mais comment
on l'a
pas reconnu,
ça? Incroyable.
Incroyable. Incroyable.
C'est super facile.
C'était pas si loin de Walter Mayer, en fait.
C'était quand même pas non plus très proche.
C'est fou, ça.
Ah, mais ce contrôle qu'elle a est exceptionnel, je trouve.
Bah, c'est surtout ce médium extraordinaire.
Alors, ce que j'ai adoré, sublime. C'est que j'ai dit le passage vers le grave me semble moins naturel que dans la version A. Et le grave.
J'ai rien dit. Non, mais.
J'ai rien dit.
Et le grave lui-même peut être plus construit. Donc, en gros, j'ai dit qu'une mezzo-soprano chantait moins bien dans le grave qu'une soprano aiguë.
Et c'est pour ça que je n'étais pas complètement d'accord.
C'est facile à dire après.
Ah
ça,
oui,
aussi.
Oui, c'est voilà. Excellent.
Ah ben,
Alors la version A.
Non mais fabuleux Joyce aussi.
Non mais Joyce.
Joyce. Joyce, on aime Joyce.
Elle est extraordinaire avec l'ensemble Il Pomodoro.
Elle pourra se présenter dans le Connecticut contre René Fleming pour le Parti démocrate.
Justement, j'allais dire, mais moi je la verrais plus quand même sur la côte ouest.
Oui, non, bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr. Non, elle est du Midwest, hein, Joyce DiDonato, et pour payer ses études, j'ai eu la chance de l'interviewer assez longuement, et pour payer ses études, elle servait le café comme dans les films américains, dans les,
ah oui,
les trucs de routier.
Dans les diners.
Oui, en disant, do you want some more coffee? Et puis, et voilà, c'était ça, sa vie. Et elle a mis très longtemps à percer. Donc, wow. Elle vient du Midwest. Un peu une ambiance Fargo.
Ah, c'est le thème de cette émission, finalement. Oui. Alors, la dernière version est une version qu'on connaît tous. C'est la version du CD de Daniel Denise avec les arts florissants de Bill Christie.
La dernière personne au monde à dire le CD.
Le CD, oui, c'est vrai. C'est le compact disque.
Le compact disque, oui. Enregistré en analogique.
Moi, personnellement, c'est une des versions qui m'a le plus donné envie d'aimer l'opéra. Je crois que c'est le premier vraiment DVD que j'ai abîmé à force de le visionner.
Ah bah, pareil.
Et la scène dont tu parlais, Marie, la mise en scène, donc,
extraordinaire.
De la mise en scène de David McVicar.
Quel bonheur.
Et qui est une version... d'ailleurs, c'est assez amusant. Je connais l'assistante Marie Lambert, le bilan de l'assistante de mise en scène donc, de, cette, de cette production, qu'on salue. Et qui m'avait dit qu'arrivé au premier jour de répète, David McVicar n'avait pas vraiment encore... penser toutes ces choses-là, et c'est en voyant l'énergie débordante de Daniel Denizé qui ne demandait qu'à danser.
Oh.
C'est en fait c'est elle quasiment qui a créé toutes ces chorégraphies avec David McVicar.
Donc que David McVicar rembourse son cachet et le verse à Daniel Denizé. Il faut le dire souvent, les metteurs en scène volent les idées des artistes et après quand ils viennent saluer, c'est tout pour eux, alors que l'idée vient de Marie Perbost ou bien
de Camille Derec.
Non, moi j'ai pas encore chanté le rôle, mais
pas encore. Mais vous le savez, il sera au Met pour la saison 2023.
Le contrat est signé. Il y aura Val Trottmeyer en Jules César, exactement, il faut le dire, et ce sera dirigé par qui ? Par Selim Mazari.
Je ne pensais pas que c'était encore officiel, mais voilà, c'est dit. Donc voilà, Daniel Denis.
J'aimerais dire un truc sur Daniel Denis, si tu permets, parce que vous êtes en discussion en binôme, mais moi aussi j'aimerais donner mon avis pendant ce débriefing. Elle était apparue à la fin des années 90 dans une grande tournée de Giulio Cesare, tournée pléthorique fait Marc Minkowski, où en gros, avec les musiciens du Louvre, ils avaient traversé toute l'Europe et ils avaient plusieurs castes et les programmateurs pouvaient choisir leur Cléopâtre. Leur Giulio Cesare. Je me souviens que comme Giulio Cesare, on avait le choix entre Marianna Mijanovic et Magdalena Kojena, et qu'il y avait cet inconnu à l'époque, Daniel Denise, qui était à la fois sublime, qui avait cette posture de Cléopâtre. Je me souviens de sa robe qui était un lamé hallucinant, enfin bref. Et après, elle l'a chanté dans la mise en scène de McVicar. Elle a aussi chanté à la Monnaie dans la mise en scène d'Hermann, où il était extraordinaire. Et c'est son rôle signature. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on la retiendra, Daniel Denis. Elle a été la plus grande Cléopâtre de sa génération.
Ouais, je me souviens à l'époque, Maître dit, je ne sais pas si j'aime stylistiquement. Parce que je trouvais ça très variété à l'époque.
Voilà, moi pareil, vachement... ça m'a beaucoup secoué aussi. Quand enfin, on est étudiant au conservatoire, qu'on est en train de travailler ses rôles et qu'on a effectivement, comme tu disais, une vision très orthodoxe de ce que doit être un aria da capo endelien. Et elle arrive et elle met un bazar incroyable là-dedans. Et moi, j'ai trouvé ça très inspirant.
Bah, c'est ça, les artistes.
Exactement.
Merci Selim de nous avoir
Merci à vous, merci beaucoup d'être émission. Venu. Et puis je suis tellement content d'entendre des tribunes, des comment dirais-je,
enfin
des tables d'écoute, ouais, où en fait on n'est pas là pour descendre, mais on est là pour apprécier. Voilà,
après, quand les micros étaient fermés, on s'est pas privé non plus.
Oui, et je crois qu'il est temps de s'arrêter. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième numéro.
Ce sera quoi ?
Qui sera consacré au prologue de Pagliacci.
Mon Dieu.
Oh.
Tan, tan, tan.
À bientôt ?
Oui.
À bientôt. Merci Marie.